Alors hier soir, il y a trois destroyers américains qui ont traversé le détroit d'Ormuz. L'Iran leur a tiré dessus, tiré des missiles dessus. Bien sûr, les États-Unis ont riposté aussi sec. Le centre de commandement local a pris cher. Et puis, Donald Trump, depuis Washington, a regardé la scène, il a sorti son téléphone et il a expliqué au monde entier que tout ça, les missiles, les drones, les destroyers en alerte rouge, ce n'était qu'une petite tape d'amour. Bienvenue dans le monde merveilleux de la finance qui ne demande qu'à délirer un peu plus que le monde international de la géopolitique qui, eux, sont officiellement devenus complètement cinglés. Wall Street prend des micro-profits, le pétrole joue à la balle magique et va finir par exploser, j'en doute de moins en moins. Cloudflare a réinventé le licenciement de 1100 personnes en appelant ça de la création de valeur et un fabricant de lave-linge prétend que c'est la guerre d'Ormuz qui plombe ses ventes. Tout ça en une seule séance. Parfois, je me demande si on va se réveiller de ce scénario de science-fiction dans lequel nous sommes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Bayet et nous sommes le 8 mai 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc hier, on a quand même réussi à empocher quelques profits tout en se rappelant qu'on était officiellement encore en guerre. Alors, petit rappel pour ceux qui dormaient au fond de la classe, un cessez-le-feu. En théorie, ça veut dire qu'on a arrêté de se tirer dessus, momentanément. Mais visiblement, dans la version 2026 du cessez-le-feu, ça veut surtout dire qu'on continue à se tirer dessus, mais avec affection. Le baril s'est promené toute la journée dans une fourchette de 7$. En quelques heures, les indices ont fini en baisse globalement. Et ce matin, les futurs repartent déjà à la hausse parce que il paraît que ça ira mieux demain. C'est un grand classique. Et puis ce soir, on a les non-farm payrolls, soit la routine d'un vendredi. On commence donc par le plat de résistance. Hier soir, vers 21h, heure suisse, trois destroyers de l'US Navy ont décidé d'aller se balader et de traverser tranquillement le détroit d'Ormuz. Sauf que, visiblement, c'est pas si simple. Parce qu'il y a plein d'angles morts dans le détroit d'Ormuz. Et dans un des angles morts, il y a l'Iran. Et l'Iran, ça les a fait moyennement rire de les voir arriver. Du coup, missiles, drones, petits bateaux rapides, le menu complet à table, et les Américains, eux, n'ont pas vraiment envoyé des fleurs pour répondre. Ils ont frappé le port de Qeshm, des sites de lancement, des centres de commandement et toute une jolie collection d'installations militaires responsables de l'attaque. Bilan officiel selon le Pentagone, aucun actif américain n'a été touché, ce qui traduit en langage normal veut dire « on a tout démoli en face, mais nous on est rentrés sans prendre une égratignure et d'être allé boire un café ». Pour être totalement honnête, on ne sait même pas qui a tiré le premier, de toute façon, parce que les deux camps se renvoient la balle, et selon les deux camps, c'est évidemment la faute de l'autre. Et puis alors là, à ce moment-là, très précisément, Trump est arrivé. Enfin, il est arrivé sur Truth Social, fidèle à lui-même, et il s'est fendu d'un poste totalement lunaire et qui repousse toujours un peu plus la limite de l'infinie stupidité. Le président s'est pointé pour expliquer que les Iraniens sont tombés au fond de l'océan. « So beautifully, very much like a butterfly dropping to its grave. » En français, comme un papillon s'effondrant gracieusement dans sa tombe. Voilà. On a connu des présidents américains avec un sens de la métaphore un peu plus mesuré. À côté, Reagan avait l'air de lire du Victor Hugo et George W. Bush avait l'air intelligent. Mais l'apothéose est arrivée juste après. Trump a appelé ABC News pour rassurer les marchés. Il précise que le cessez-le-feu tient toujours. Que ce qu'on vient de voir, des missiles, des drones, des destroyers en alerte rouge, ce n'était qu'une petite tape d'amour. A love tap dans le texte original. J'ai pas les mots pour exprimer ce que je suis en train de penser de ce mec en ce moment. À ce moment, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit Donald Trump n'a pas la même définition du mot cessez-le-feu que le reste de l'humanité, soit il vient de créer un tout nouveau registre diplomatique. Soit il est complètement cinglé. Ce cessez-le-feu est devenu un cessez-le-feu à option, tout simplement. On ne tire pas, sauf quand on a le droit de tirer. Et puis c'est pas parce qu'on tire qu'on rompt le cessez-le-feu. C'est exactement comme dans un régime. Vous savez, vous êtes au régime, vous mangez sain toute la semaine, vous buvez de l'eau, mais le samedi soir, vous vous autorisez une raclette. Alors bien sûr, vous restez officiellement au régime, sauf que quand vous commencez à vous autoriser des raclettes 6 fois par semaine, à un moment, il faut peut-être arrêter de prétendre que vous êtes toujours au régime. Ben, le cessez-le-feu de Trump, c'est exactement la même chose. Ils disent tous qu'ils font des écarts de temps en temps pour se tirer dessus, mais à un moment, il va quand même bien falloir admettre que ce cessez-le-feu à deux balles ne veut plus dire grand-chose. Mais pour l'instant, on s'y accroche et on fait comme si. Pendant que Donnie, le poète, chantonne ses vers à coups de butterfly et de love tap, sur le terrain, l'Iran, eux, ils rigolent un peu moins. Téhéran a donc rejeté publiquement le plan de paix américain en 14 points. Project Freedom, selon eux, c'est un stratagème et ils préviennent gentiment que le détroit d'Ormuz restera fermé tant que les États-Unis n'auront pas versé des réparations de guerre. Ah oui, puis après ça, ils demanderont sans doute à voir comment la marmotte, elle met le chocolat dans le papier. Puis ils exigeront que Donald Trump vienne lui-même signer l'accord de paix déguisé en danseuse du Crazy Horse, plume comprise. Bref, toute cette belle équipe de joyeux lurons des deux côtés se congratule pour leur prétendu plan de paix, alors qu'on sait tous parfaitement que personne n'a la moindre intention de faire la moindre concession, parce qu'on se déteste beaucoup trop. En gros, c'est exactement comme mon ex-femme, qui me disait qu'on pouvait débattre de n'importe quel sujet, à condition qu'à la fin, ce soit elle qui ait raison. Donc soyons clairs, la question n'est pas est-ce qu'ils vont recommencer à se foutre sur la gueule, la question c'est quand est-ce qu'ils vont recommencer à se mettre la misère une fois pour toutes. Et pendant ce temps-là, ben, Wall Street, eux, ils ont fait leurs petites affaires. On n'est pas monté hier, c'est vrai, mais on va dire qu'on s'est créé de jolies opportunités d'achat. Et ce matin, les futurs sont déjà en hausse. Pourquoi ? Eh bien parce que Trump nous a gentiment fait comprendre que tout ça, finalement, c'est pas si grave. Après tout, ce sont que des missiles bourrés d'amour et des mitrailleuses lourdes spécialement calibrées pour distribuer du bonheur en rafale. Du coup, on va finir par s'arranger, on signera la paix jusqu'à ce qu'on recommence à se balancer des roquettes à la figure, parce que fondamentalement, on se déteste beaucoup trop pour que ça dure. Et nous, pendant ce temps-là, investisseurs, traders, gérants de fonds et autres brasseurs d'air professionnels, on continue à trouver mille raisons de ne pas vendre. Forcément, dans ce contexte, le baril a vécu la séance de sa vie. Pendant la journée, le WTI a perdu près de 6% jusqu'à 90,30$ vers 16h, sur fond d'espoir, de réouverture du détroit. N'allez pas vérifier à la pompe, ça n'a strictement rien changé, parce qu'il a rebondi direct derrière à 97$ vers 19h15, donc des rumeurs de frappe américaine ont commencé à fuiter. Puis il a reperdu 1,5% juste avant la cloche, puis il a regrimpé 2% pendant la nuit, après les confirmations de combat par la marine américaine. Et au milieu de ce chaos, il y a un type, c'est le patron de chez Shell, confortablement installé dans son bureau de Londres avec ses Weston aux pieds et son Darjeeling à la main, eh bien il a glissé tranquillement aux investisseurs qui voulaient bien l'écouter que le marché du pétrole fait actuellement face à une pénurie d'1 milliard de barils. Et que ça empire de jour en jour tant que la guerre dure et perdure. Alors juste pour visualiser en 2 secondes, à 1 milliard de barils, c'est 159 milliards de litres de pétrole. Si on répandait tout ça sur le sol, ne le faites pas chez vous, ça créerait un lac visible depuis l'espace. C'est l'équivalent de 63 600 piscines olympiques remplies de brut à ras bord. Il faudrait 5,3 millions de camions citernes pour le transporter. Et avec 1 milliard de barils, vous pourriez théoriquement faire le trajet Terre-Lune, Lune-Terre en voiture et le refaire, et le re-refaire, et le re-re-refaire 2 700 000 fois. Voilà, c'est l'ampleur du trou du marché pour l'instant, parce que chaque jour, c'est un peu plus pire. Pendant ce temps, le prix d'essence aux States vient de franchir les 4$ le gallon, pour la première fois depuis juillet 2022, et on est à 6 mois des élections de mi-mandat. Trump a donc 2 options sur la table. Première option, signer la paix, vite. Très vite, voire très très vite. Deuxième option, accepter que les électeurs américains payent leur plein cet été en râlant à la pompe et se faire défoncer au midterm. Pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir quel côté il va choisir. Je commence même à me dire qu'il sera prêt à accepter n'importe quoi pour signer la paix. Du coup, je suis aussi en train de dire que le truc des plumes et du costume de danseuse du Crazy Horse, c'est peut-être pas exclu à la fin. Pour l'instant, il a choisi une 3e option qui ne figurait pas au menu. Il menace l'Iran sur les réseaux sociaux et il qualifie les missiles iraniens de petites tapes affectueuses. Il faut reconnaître que c'est plus facile de poétiser la situation quand c'est pas toi qui te prends des missiles en pleine gueule. Côté action, c'est la fin de la série gagnante. Le S&P 500 perdait 0,38% hier soir. Le Nasdaq a reculé de 0,12%, ce qui dans le contexte n'est franchement pas cher payé. Soyons honnêtes, le Nasdaq a pris 6000 points en 6 semaines. Donc là, on va tenir le coup, je pense. Donc 3 missiles qui se courent après dans le Détroit et une correction de 0,12%, c'est presque une insulte au sérieux du moment. Le Dow Jones, lui, n'arrive toujours pas à clôturer au-dessus des 50 000 points. C'est la 2e fois en 2 jours qu'il franchissait la barre, mais il redescend à chaque fois en dessous. comme je cite Trump là, un magnifique papillon qui retombe dans sa tombe. La star incontestée de la séance était Datadog, plus 31% en une seule journée. Les résultats sont solides, la guidance est relevée, la cybersecurity est dopée par l'adoption massive de l'IA dans les entreprises. La boîte vient de prendre 95% en 4 semaines et a retesté son record absolu des $200. Pendant que tout le monde regarde Nvidia avec des yeux amoureux, Datadog est tranquillement en train de devenir la nouvelle coqueluche de Wall Street. À l'autre bout du parking, eh bien, c'est la chambre froide hein, pour Zoetis. 21% de baisse après avoir massacré ses prévisions. Apparemment, soigner les chiens et les chats, c'est plus un business aussi défensif qu'on voulait bien le penser. Whirlpool a perdu 12%. Le fabricant de lave-linge, je vous ai expliqué que c'est à cause de la guerre dans le détroit d'Ormuz que ça plombe la demande américaine. Et Planet Fitness perdait 31%. Apparemment, les Américains arrêtent d'aller à la salle. Et puis Shake Shack, moins 28% aussi. Il semblerait que là aussi, les Américains ne vont plus au fitness. Mais en même temps, heureusement, ils arrêtent de manger des burgers à $18. Mais en même temps, McDonald's a battu les attentes du marché. Visiblement, quand la récession pointe à l'horizon et que le galon s'installe au-dessus des 4,50, le peuple américain redécouvre le Happy Meal et abandonne les restaurants qui sont un peu trop prétentieux. En tout cas, quand l'empire de la consommation tombe en panne d'essence, le burger à 1$ vit sa meilleure vie. Côté semi-conducteur, gros nettoyage, enfin petit nettoyage en proportion, puisque ARM perdait 10% malgré des excellents résultats au-dessus des attentes, ça n'a pas suffi parce qu'il y a les attentes et les vraies attentes. Marvel perdait 7%, Applied Materials 4%, AMD 3,1% après son spectaculaire mouvement de la veille. Apparemment, le secteur veut bien monter au ciel, mais pas d'un seul coup. Il faut quand même faire des pauses de temps en temps pour respirer. Cela dit, le SOX est toujours en hausse de 61% depuis début mars, donc il n'y a pas d'urgence, on ne va pas appeler le SAMU tout de suite. Et au milieu de cette fête, il y a un absent qui est très remarqué, c'est Nvidia. Le ratio Nvidia-SOX est au plus bas depuis 2 ans. Vous avez des boîtes comme Intel ou comme Micron qui ont pris entre 200 et 126%. Vous avez AMD qui a pris 89% et Nvidia a pris 14%. La rotation hors des hyperscalers vers les outsiders du semi-conducteur est en train de réécrire toute l'histoire. Le roi est encore sur son trône, mais là, il y a des gens qui le regardent par en dessous un petit peu bizarrement. Cloudflare, hier, ils ont annoncé 1100 licenciements, soit 20% du staff, et ils ont publié une lettre qui mérite d'être encadrée et exposée au MoMA, à mon sens. La citation de la lettre, qui est assez fabuleuse, ils ont dit « Ces actions ne sont pas un exercice de réduction des coûts. » Ah bon, tu vires 1100 personnes, mais c'est pas une réduction des coûts. Bah c'est quoi exactement alors ? C'est Cloudflare qui définit la manière dont une entreprise high growth crée de la valeur dans l'ère des agents IA. Voilà, on ne licencie plus, on redéfinit la création de valeur. L'usage interne de l'IA chez Cloudflare a augmenté de 600% au premier trimestre, donc évidemment, on n'a plus besoin d'un cinquième de ces humains, c'est mathématique, c'est presque touchant. Le marché, lui, n'a pas tellement adoré la poésie du management, moins 19% en after close, et puis à côté, Upwork a viré 24% de ses effectifs, Bill Holdings a coupé 30%, Coinbase 14%, Block 40% il y a 3 mois. La nouvelle ligne de communication des RH du monde entier est désormais établie. Ce n'est pas un plan social, c'est une transformation agentique. À qui le tour, faites vos jeux, rien ne va plus. Et puis, petit bonus géopolitique commercial, hier, des juges de New York ont invalidé les tarifs douaniers de 10% imposés par Trump en février au titre de la section 122. Le verdict d'un panel de 3 juges est sans appel, Trump n'avait pas le droit. Sauf qu'il y a une subtilité juridique assez amusante, l'injonction ne s'applique qu'aux 2 entreprises plaignantes et à l'État de Washington. Tous les autres importateurs continuent de payer en attendant de faire appel. Pour info, les douanes américaines ont collecté 8 milliards de dollars de section 122 rien qu'en mars. Et pendant ce temps-là, les remboursements des anciens tarifs IEEPA, souvenez-vous, 170 milliards au total, vont commencer à atterrir dans les comptes bancaires des personnes concernées. Et pendant qu'il se faisait gentiment humilier par les juges, dans la même journée, Trump a donné jusqu'au 4 juillet à l'Union européenne pour ratifier l'accord commercial négocié en juillet 2025, sous peine de hausse immédiate de tarifs sur les voitures. Ursula von der Leyen répond qu'ils sont toujours extrêmement motivés pour trouver un deal. Traduction, on traîne les pieds, mais on continue à sourire pour les caméras. Aucune réaction, ni d'un côté, ni de l'autre. Le marché a appris à ne plus paniquer à chaque tweet de Trump. C'est probablement une compétence qu'on enseignera dans les MBA d'ici 5 ans. Module 4, comment ignorer un président américain en colère ? Ce matin, l'Asie a ouvert dans le rouge. mais sauve quand même bien sa semaine, puisque le Nikkei perd un peu moins d'1%, mais gagne 4% sur la semaine en deux jours de trading. Kospi, moins 1,6%, mais 11% sur la semaine. Hang Seng, moins 1,3%. CSI en Chine, moins 1%. Le marché chinois retient son souffle avant le sommet Trump-Xi Jinping du 14 au 15 mai à Pékin, sommet déjà reporté une fois à cause de la guerre, et que Pékin n'a aucune envie de tenir vraiment tant que le détroit est fermé. Et nous voici donc arrivés au plat principal de l'après-midi, les non-farm payrolls du mois d'avril, et sur ce coup-là, le marché part avec un cocktail de signaux totalement contradictoires. Les jobless claims sont sortis hier à 200 000, un niveau toujours scotché au plus bas historique. La productivité du premier trimestre a battu les attentes à plus 0,8. Le coût unitaire du travail s'est légèrement refroidi à plus 2,3 contre 2,6% attendu. Bref, tout va bien. Ou alors, les chiffres n'intègrent pas encore le choc d'Hormuz. C'est au choix. La vraie question, c'est est-ce que les disruptions qui ont été causées par le conflit ont déjà commencé à se voir à l'embauche ? Le consensus aujourd'hui parle de 60 à 65 000 créations d'emplois et le taux de chômage devrait être à 4,3%. Mais à ce stade, le marché obligataire, lui, il a déjà acté pour certitude que la Fed ne bougera plus de l'année. Powell est en transition, l'incertitude géopolitique paralyse de toutes et personne. Au FOMC, a pour l'instant envie de sortir du bois ou prendre des risques. Bref, ça va être chaud. Et puis au pire, si c'est pas chaud, ça nous aura au moins occupé l'après-midi. Hier, dans cette même chronique, j'écrivais qu'on avait craqué le code des marchés. 24 heures plus tard, on découvre qu'il n'y a jamais eu de code. Il y avait juste Donald Trump avec son téléphone, l'Iran et ses petits bateaux. Le pétrole avec son syndrome bipolaire, un Dow Jones incapable de clôturer au-dessus des 50 000 malgré deux tentatives héroïques. Et pendant ce temps-là, Goldman Sachs nous sort une grande vérité et nous explique que tout repose sur le CAPEX de l'intelligence artificielle. Sans blague. Bravo Sherlock. Cloudflare licencie 20% de ses humains et appelle ça de la création de valeur. Datadog prend 31% en une seule séance et le président américain qualifie un échange de missiles de petite tape d'amour. Comme c'est mignon. Si vous cherchez encore une raison de croire à l'efficience des marchés, c'est peut-être le moment de chercher beaucoup plus fort. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi ou alors demain pour le Swiss Bliss. D'ici là, on like, on s'abonne, on commente et on partage. Passez une belle journée, que la force soit avec vous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.